Allô, 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 encore, encore. Stop, stop.
Bonjour, moi je m'appelle Ronan.
Je m'appelle Mohamed.
Bonjour, je m'appelle Steven.
Bonjour, je m'appelle Ben.
Mon prénom c'est Lucky Thompson.
Ah ouais?
Salut à tous, chers auditeurs, chers auditrices.
Après tu dis, on nous a envoyé plein de questions, allez c'est parti, on y répond.
Bienvenue dans ce deuxième podcast, issu des ateliers de remobilisation sociale réalisés à la maison d'arrêt de Nantes avec un groupe de 6 détenus âgés entre 20 et 35 ans. Pour resituer les ateliers de remobilisation sociale, ce sont 7 ateliers avec l'outil radio afin de travailler des compétences psychosociales. C'est un projet qui a été financé par la Fondation de France dans le cadre de leur dispositif de lutte contre les récidives. Ce projet a été co-construit avec l'équipe enseignante de la maison d'arrêt de Nantes et a été soutenu par l'équipe des SPIP. Il s'agit d'une expérimentation dont ces podcasts sont le résultat. Si je prends la parole à la place des détenus pour présenter ce plateau, c'est qu'en raison du contexte sanitaire, le déroulé des ateliers pour ce groupe en particulier a été fortement perturbé et donc ils n'ont pas pu réaliser le plateau de restitution. Et donc je me fais leur porte-voix pour présenter ce qu'ils ont fait. Pour resituer le contexte du projet, avec ce groupe, nous avons pris comme fil rouge, avec c'est leur choix, la question des discriminations. Alors ça a été travaillé avec des ateliers de toutes formes avec leur enseignant Benoît. Donc ils ont travaillé ça à travers le dessin, l'écriture, le débat. Et puis après, je suis intervenue. On s'est basé d'abord sur des débats un peu libres pour apprendre à maîtriser l'outil radio et puis aussi créer une dynamique de groupe avec le groupe des 6 détenus. Le groupe a vite pris goût à la parole au micro et puis au débat. Et ça leur a vraiment permis de travailler la question de l'écoute et de l'argumentation. Voilà, de ne pas être seul avec son propos, mais de le confronter à l'autre. Et du coup, de pouvoir réviser certains jugements par rapport à certaines situations. De ces réflexions et après l'écoute d'une pièce sonore qui a pour nom Kebab Blues, on s'est interrogé sur le racisme ordinaire. Et donc, on a décidé avec le groupe de créer un docu-fiction collectivement à la façon du film Angle d'attaque. C'est-à-dire qu'on assiste à une situation de racisme ordinaire, mais la scène est construite via le point de vue de plusieurs personnes impliquées dans cette situation. Donc je vous propose qu'on écoute cette première création et on se retrouve après.
Je viens d'arriver à Nantes, donc du coup il me fallait un logement pour moi et ma femme. J'ai trouvé sur internet une agence immobilière, MHD94. Je les ai appelés au téléphone, ils m'ont donné rendez-vous à 14h. Le gars avait l'air assez gentil. J'étais confiant.
J'ai eu un gars au téléphone, je pense qu'il y a un bon client, il va venir à 14h.
Dès mon arrivée là-bas, j'ai senti un malaise.
À son arrivée, j'étais surpris. Je ne m'attendais pas à un gars comme ça. Les gars comme ça, je les connais.
J'avais avec moi un dossier pourtant bien rempli, avec mes fiches de paye, les recommandations de mon patron, mes papiers d'identité, tout ce qu'il fallait, quoi.
Moi, j'étais tranquille dans la salle d'attente, j'attendais mon rendez-vous et j'ai vu un gars débarquer. Il avait rendez-vous comme moi sûrement avant. Et là, je sais pas pourquoi, le mec de l'agence, il vient le chercher et je trouve que l'ambiance, elle est tendue.
Déjà, le mec, quand il me dit bonjour, il est froid. Il a pas de temps pour moi et il regarde même pas mon dossier. Et en plus, je comprends pas, j'avais rendez-vous avec lui, il me demande ce que je fais là, il est bizarre le mec.
Il tend un dossier, moi je les crois pas. Les gars comme ça, ils donnent des faux papiers, c'est sûr. Du coup, je me dis que je perds mon temps. Et donc, je demande pourquoi il est là. Là, je sens qu'il commence à s'énerver.
Moi, j'étais toujours dans la salle d'attente et le client, je vois qu'il montait un peu en pression et que l'agent immobilier, il était de plus en plus agressif. Et là, j'entends l'agent immobilier dire une phrase et je suis choqué.
Et là, le gars, il me dit, les gars comme vous, c'est dans des HLM et c'est déjà bien, quoi. Et moi, je lui dis, du coup...
Il lui dit, les gens comme moi, c'est qui? Les gens comme moi, c'est qui?
Moi, j'étais dans mon bureau et puis tout d'un coup, je vois un de mes agents en difficulté, là. Alors, qu'est-ce que je fais? J'y vais, quoi.
Et là, il y a le patron de l'agence qui débarque, et le gros bordel, quoi.
Et là, le directeur débarque. Je me dis, cool, il va me soutenir, quoi, par rapport à son agent. Du coup, je lui explique.
Et là, le client, là, il me dit que l'agent immobilier qui travaille pour moi est raciste, alors qu'il lui a juste remis un très mauvais dossier, et que ces gens-là, on sait comment les traiter.
Et je vois que le directeur de l'agence, il arrive et qu'il prend le parti de son salarié et que bah, il a l'air d'être raciste comme lui. Hein.
Et là, le directeur, il me sort encore les gars comme vous, quoi. Donc là, j'explose.
Et là, le client s'emporte, s'énerve et me dit « Mais c'est qui les gars comme nous ? C'est qui les gars comme nous ?»
Et là, il me répond « Tu vois très bien ce que je veux dire. » Donc là, bah, ça y est, je comprends, quoi. J'ai compris que pour lui, c'était ma couleur de peau qui faisait que je payais pas, que je salissais tout, que j'allais tout casser, donc voilà.
Et là, je me dis « Bah, je peux pas laisser le gars comme ça, je suis obligé d'aller le soutenir, du coup, je suis parti l'aider. »
Là, heureusement, il y avait un autre client, il est venu m'aider. Il m'a calmé, on est sortis de l'agence tous les deux.
Et du coup, en sortant, je lui explique que c'est pas normal et qu'il y a des assos qui peuvent l'aider contre ce comportement-là.
Ouais, moi j'aurais même pas pensé à faire appel à une asso, et du coup je suis allé.
Et le gars, il a porté plainte, quoi. J'hallucine.
J'ai eu des nouvelles du gars, il a porté plainte, il y a eu une date de jugement, et du coup je suis convoqué pour être témoin.
J'aurais jamais cru ça, mais en fait j'ai gagné au procès.
J'ai pris un rappel à la loi et 50 000 euros d'amende et du coup, j'ai pas pu garder mon employé.
Le racisme n'est pas une opinion. C'est un délit. Face à ces actes, réagissons. C'était le docu-fiction issu des ateliers de remobilisation sociale qui ont eu lieu en janvier à la maison d'arrêt de Nantes. Le groupe de détenus a souhaité travailler la question des discriminations et du coup la question du sexisme a été aussi travaillée avec le groupe. Et donc ils ont souhaité interviewer une des chefs de la pénitentiaire sous une question, sous un angle qui était « Y a-t-il du sexisme dans le monde professionnel et dans le monde professionnel carcéral ?» Donc je vous propose qu'on l'écoute et on se retrouve après.
Bonjour chef.
Bonjour.
Alors, on a quelques questions à vous poser avec mes camarades détenus.
Pas de souci, je suis prête.
Comment avez-vous décidé de vous lancer dans cette carrière et de devenir première surveillante du centre pénitentiaire ?
Alors, je suis rentrée quand même relativement tard dans l'administration pénitentiaire, j'avais 26 ans. Donc, j'ai eu une carrière avant dans le privé. À l'époque, c'est pas forcément un secret, j'habitais sur l'île de Ré. Et dans nos amis, nous avions des surveillants pénitentiaires. Et du coup, avec mon époux, on a passé le concours tous les deux. Et voilà, ça s'est passé comme ça. Tout à fait par hasard, on avait envie aussi, comme je vous disais tout à l'heure, d'avoir une stabilité dans le travail et aussi pouvoir avoir des perspectives de carrière.
Alors, est-ce que vous pensez que vous avez eu plus de difficultés qu'un homme pour arriver au poste de première surveillante ?
En tant que tel, pas du tout, parce que c'est un concours, donc bien évidemment, les questions sont les mêmes pour les hommes que pour les femmes. Donc après, c'est la valeur de chacun qui est reconnue, et donc il n'y a pas de difficulté en soi.
Est-ce que vous pensez recevoir plus de critiques vis-à-vis du résultat de votre travail comparé à un homme ?
Je ne le ressens pas du tout comme ça, je ne l'ai jamais ressenti, puisque quand on est... Surveillant pénitentiaire, chef ou gradé, on se doit d'être impartial, probe, intègre. Donc on doit normalement tous travailler sur la même dynamique. Et je n'ai jamais ressenti de difficulté sur la reconnaissance de mon travail.
Êtes-vous moins payé qu'un homme ?
Alors non, pas du tout. L'avantage du coup d'être dans une administration, on a une grille de salaire qui est applicable aux hommes comme aux femmes. Donc il n'y a pas de... Voilà, quand on rentre, on a un salaire de base. Après, en fonction des années, on passe des échelons. Et ça, c'est pour tout le monde pareil. Et quel que soit le corps, qu'il soit de surveillance, d'encadrement ou de commandement, c'est pareil.
Est-ce que c'est plus compliqué que ce que vous pensiez de travailler dans un endroit où il y a plus d'hommes que de femmes ?
Alors, ça n'a jamais été une difficulté pour moi, parce que j'ai toujours travaillé qu'avec des hommes. Pour la petite histoire, j'ai travaillé pendant à peu près 8 ans dans le monde de la moto. Alors, autant vous dire que, en termes de machisme, on est au summum. Je suis quelqu'un qui est quand même assez avenante vers les gens. J'essaye de comprendre comment ça fonctionne, etc. Donc même dans ce milieu-là, précédant mon travail que je fais actuellement, je n'ai jamais rencontré de difficultés vis-à-vis des hommes, en fait. Et quand je suis rentrée dans l'administration pénitentiaire, alors l'avantage, c'est qu'en tant que femme, on peut travailler dans les hébergements avec les hommes. Et le choix s'est fait naturellement, d'aller vers les hommes.
Avez-vous déjà été confronté directement au sexisme dans le monde professionnel ?
Oui, bien évidemment. En fait, la seule difficulté que j'ai pu avoir dans l'administration pénitentiaire, c'est quand je suis rentrée en 2000, les femmes commençaient juste à aller dans les détentions hommes. Donc, il fallait que nous fassions notre place. Et c'était pas forcément évident, dans la mesure où il y a certaines tâches que nous ne pouvons pas faire. J'entends par là les fouilles corporelles. Donc, souvent de fois, les collègues étaient sur des railleries en disant « Oui, mais de toute façon, vous ne servez pas à faire grand-chose. Vous ne pouvez pas faire les fouilles à corps, s'il y a un problème. » Et puis en fait, bon voilà, ça s'est bien mené au fil du temps. Et puis ça tient aux personnes aussi, hein, en termes d'intégration. Avec mes collègues, on est arrivés, on était trois. On a mené front, on a fait notre travail. Et on a apporté autre chose en détention, qui fait que maintenant, on est tout à fait très très bien intégrés.
Pour vous, chef, qu'est-ce que les femmes ont apporté de nouveau dans le milieu carcéral ?
Quand on met des hommes ensemble, il y a toujours un rapport de force. Ça, c'est évident. Et les femmes, nous, on n'a pas de rapport de force avec les hommes. On travaille différemment. On est, en fonction des caractères, bien évidemment, hein, mais on est quand même beaucoup plus à l'écoute. On essaye de comprendre les choses différemment. C'est ce que je ressens et ce que j'ai pu ressentir auprès de mes collègues féminines. On n'est pas dans ce rapport de force, en fait. Donc ça permet aussi, des fois, d'atténuer des conflits, même aussi des détenus qui préfèrent se confier sur une problématique à une femme plutôt qu'à un homme.
Combien de pourcentage de surveillants de femmes y a-t-il en détention ? Hommes ?
Alors, tout corps confondu, donc ça va de surveillante stagiaire jusqu'à directrice. En moyenne, c'est 30% d'effectifs de l'établissement.
C'est une loi, ça, ou c'est une obligation, ou c'est...
C'est pour pouvoir maintenir une sécurité optimale dans la détention, en soi. Sur 10 surveillants sur un bâtiment, faut qu'il y ait 3 femmes. Pour les interventions, pour les fouilles à corps, pour les fouilles de cellules, enfin voilà, toutes ces choses-là. On ne peut pas mettre un 100% de femmes sur une détention homme.
Est-ce que le fait d'être chef vous expose à de la séduction de la part de vos collègues surveillants ou alors de détenus ?
La séduction en tant que telle, moi je ne le ressens pas du tout comme ça. Parce que on est là pour travailler, on est là pour... on a des missions et... Alors bien évidemment, il y a toujours quelques jeux un peu pour essayer de peut-être un peu manipuler. Mais après, moi en tout cas, je me laisse pas du tout atteindre par ce genre de choses. Je sais bien faire la différence.
Pourquoi il n'y a pas de surveillants hommes dans les quartiers des femmes ?
Alors ça c'est toujours une question qui revient. Alors je pense que la question s'est posée à un moment donné, ça c'est sûr. Il y a des hommes qui vont en détention. Hein. Alors, j'entends par là, c'est les conseillers d'insertion de probation qui peuvent aller rencontrer en audience les détenues femmes. Un officier ou un premier surveillant comme moi, mais homme, peut gérer une détention femme. Mais par contre, dans ses déplacements pour aller voir, alors je prends un homme qui est au même grade que moi. S'il doit aller voir une personne détenue en cellule, il faudrait qu'il soit obligatoirement accompagné d'une femme pour l'ouverture de cellule, pour l'œilleton, voilà, pour toutes ces choses-là. Du coup, c'est aussi pour ça que en détention de surveillant même qui est sur l'étage, il n'y a pas d'homme. Parce que c'est les ouvertures de porte, c'est les œilletons, c'est les interventions, tout ça, c'est un petit peu plus...
Quand ça se bouscule dans les interventions, les hommes ne peuvent pas faire les mêmes gestes
Une femme. Et là, après, peut-être qu'on pourrait avoir des interprétations, toutes ces choses-là, en fait. Donc, pour éviter d'en arriver là, je pense que l'administration centrale s'en tient à ce qui est actuellement Donc c'est l'encadrement ou alors les travailleurs sociaux qui peuvent voir les femmes, mais pas de surveillant sur les coursiers.
Merci, chef première surveillante, d'avoir répondu à nos questions.
C'est moi qui vous remercie de m'avoir reçu, d'avoir pris un peu de temps pour m'écouter. Et c'était un échange très agréable, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée.
C'était l'interview d'une chef de la pénitentiaire de la maison d'arrêt de Nantes, interrogée par les 6 participants aux ateliers de remobilisation sociale qui ont lieu en janvier à la maison d'arrêt de Nantes. Je remercie beaucoup ces 6 détenus volontaires de s'être investis dans ce projet et je les remercie d'autant plus de leur patience parce que leur déroulé d'atelier a été extrêmement perturbé et ça a vraiment atteint aussi un peu parfois la dynamique du projet. Je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve bientôt pour un 3e podcast. Celui-ci sera entièrement réalisé par les détenus du 3e groupe des ateliers de remobilisation sociale. Au revoir.